À Marseille, à deux pas du Vieux-Port, le nouveau magasin H&M de la rue de la République vend des vêtements confectionnés au Bangladesh par des ouvrières qui gagnent 50 euros par mois pour 60 heures de travail hebdomadaire. Quand les dirigeants du groupe perçoivent au moins 100 000 euros mensuels. Les nouveaux hôtels de luxe qui se sont multipliés depuis l'opération Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013, emploient en sous-traitance des femmes de chambre capverdiennes qui gagnent 500 euros par mois et sont régulièrement obligées par leurs gouvernantes d'effectuer des heures supplémentaires non payées. À Marseille, un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté et les femmes y sont les pauvres des pauvres. En région PACA, les deux tiers des allocataires des minima sociaux sont des femmes et plus d'une mère isolée sur trois vit sous le seuil de pauvreté. La ville marseillaise détient aussi le triste record du plus faible taux de place en crèche de toute la France. Et en 2014 et 2015, on y a vu des parents, dont une grande partie de mères, occuper des écoles primaires des quartiers populaires pour protester contre l'état de délabrement des locaux ou manifester devant la mairie pour que la ville finance des activités périscolaires pour les enfants. Dans un contexte général d'explosion des inégalités sociales et de précarisation de la main-d'œuvre, le mépris pour les femmes joue un rôle non négligeable. Rien moins que d'entretenir celles qui comptent pour la moitié de la population dans un sentiment d'illégitimité, de culpabilité et de fragilité émotionnelle.
Bonjour, bonjour. Vous êtes sur Lilith, Martine et les autres, le 102.2 FM et on est sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée à Marseille et on reçoit Mathilde qui a rédigé en partie la revue Z, donc on va interviewer aujourd'hui. Et après ça, après cette longue interview, elle va nous expliquer comment ça se passe cette revue, comment elle fonctionne, comment ils ont enquêté sur cette ville. On fera une spéciale dédicace au Gang des Gazières, qui sont nos acolytes de Marseille, de Radio Galère, et aux femmes de chambre de la Villa Massalia, qui ont fait une grève qui a été victorieuse en avril 2016. Donc elles relatent dans cet extrait un peu leur lutte et leur grève. Et tout au long de cette émission, on va écouter des musiques du cru. Alors, on va écouter quoi comme musique ?
Alors, on a effectivement fait une petite sélection de deux groupes de musique qui sont cités dans le magazine Z. Le premier, c'est le groupe qui s'appelle La Chasse. La Chasse, c'est deux filles qui vivent donc maintenant à Marseille, mais qui viennent plutôt de Lyon et de Nancy. Elles jouent ensemble depuis plus de deux ans maintenant. Il y en a une à la basse et une à la batterie. Les deux chantent, elles samplent également quelques sons. Elles qualifient leur style d'hybride, partant du punk, mais passant aussi par le grunge ou le psyché. Et elles portent ce groupe aujourd'hui comme un vecteur d'idées queer et ou féministes. Et puis l'autre, c'est Flo Mekouyanski. Et Flo, elle joue toute seule, elle écrit ses textes, elle chante, elle compose et elle joue de la guitare. Elle vient de l'ouest de la France, mais elle a longtemps vécu à Grenoble avant d'arriver sur Marseille, maintenant il y a environ un an. Et elle se qualifie ainsi, genre féministe et punk. Et c'est le nom de la chanson qu'on vous fait écouter maintenant.
Vacances, c'est une ville de gars. Les soirs de concert, les féministes, on les voit pas. Amis, le jour, ça se voit pas la nuit. Mais moi, je m'en fous, je suis toute la vie. Féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk. Dans déconstruction, y'a destruction. Dans déconstruction, y'a destruction. Le soir, c'est pour me mettre une caisse, raconter de la merde en état d'ivresse. Passer 2 heures du mat, il reste plus que des gars et parfois des copines qui, comme moi, sont féministes et punk, féministes et punk, féministes et punk, féministes et punk. Dans déconstruction, y a destruction. Dans déconstruction, y a destruction. J'aime bien les grosses blagues et mes gros potes. Je suis hétérosociable parce que ça me botte. J'ai le cul entre plein de chaises et ça m'éclate. Si je deviens complaisante, mettez-moi des claques. Féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk. Dans déconstruction, y'a destruction. Dans déconstruction, y'a destruction. tout lisse, la bagarre me fait marrer. J'adore la répartie de mes copines bourrées. Les concerts en campagne, là y'a des cas d'école. Le soir on s'embrouille, le lendemain qu'est-ce qu'on rigole. Féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk. Dans déconstruction, y'a destruction. Dans déconstruction, y'a destruction. Les unes ni pour les autres, je ne suis une vraie, mais peu importe, je fais pas de l'entrisme et bois à tous les râteliers. Alcoolo féministe en cravate à damier, et féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk. Dans déconstruction, y a destruction, dans déconstruction, y a destruction. Féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk, féministe et punk. Dans déconstruction, y a destruction, dans déconstruction, y a destruction.
Alors, comme on le disait en introduction de cette émission, aujourd'hui on reçoit Mathilde. Bonjour.
Bonjour.
Qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est la revue Z. Et puis on va faire un petit zoom aussi, bien sûr, sur ce numéro qui est sur Marseille. Alors, Z, c'est une revue itinérante d'enquête et de critique sociale. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire ?
Eh bien, en fait, c'est une revue, donc on dit itinérante parce qu'à chaque numéro, donc en ce moment, enfin depuis quelques années, il y en a un par an, on part à toute l'équipe dans une ville qu'on a choisie, enquêter sur un ou plusieurs thèmes. Voilà, donc on se déplace tous pendant un mois ou deux sur place, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est itinérante, et on enquête, voilà.
Et enquête.
Et sinon, c'est une revue de critique sociale et politique qui à la fois cherche des thèmes, des enquêtes sur des choses à critiquer, à décortiquer, et en même temps aller voir les luttes locales qui sont pas forcément très visibilisées par ailleurs. Donc voilà, c'est aussi être un outil de lutte ou un outil de relais ou de lien entre des luttes.
Mais du coup, vous voyez comme des journalistes ou pas ?
Ben, pas vraiment. En même temps, c'est du travail journalistique aussi, de fond, quoi. C'est-à-dire, pas dans l'urgence. On enquête vraiment pendant longtemps. Après, tous les uns et les autres, on n'est pas des journalistes en soi, quoi. On n'a pas des cartes de presse ou quoi. Ouais. Après, ça arrive que certains fassent des piges dans d'autres journaux, mais c'est entre les deux, quoi. À dire. On vient des milieux militants, on s'est rencontrés plutôt par ce biais-là.
Et vous êtes combien, du coup, là, dans l'équipe, en ce moment ?
En ce moment, on est... Ben, en fait, Z, c'est assez fluctuant. C'est-à-dire que l'équipe, elle a beaucoup évolué depuis 2008, à la création de la revue. Et depuis 4 ans, on est un noyau dur, si on peut dire, de 4 personnes qui sont vraiment restées les 4 dernières années au sein de l'équipe. Et après, à chaque numéro, il y a au moins 5, 6, 7, voire 10 personnes qui nous rejoignent pour un numéro ou pour deux numéros. Soit parce que le thème les intéresse, soit parce qu'elles vivent dans la ville qu'on a choisie. Donc on pourrait dire, sur chaque numéro, on est une dizaine, quoi. Et après, il y a toutes les personnes qui vont écrire juste un article ou relire un truc ou faire des dessins, filer des photos. Donc en fait, il y a pas mal de personnes qui contribuent. Voilà, et tout le monde est bénévole.
Et du coup, tu peux nous dire un peu comment vous fonctionnez, comment vous prenez les décisions, aussi comment vous écrivez, parce qu'il y a pas mal d'articles, pas mal de reportages, pas mal d'interviews. Est-ce que l'écriture, elle est collective ? Est-ce qu'elle est individuelle ? Un peu des deux ?
Alors sur le fonctionnement, en fait, on habite pas du tout tous au même endroit, donc on se retrouve en réunion de temps en temps, sur 2 jours, voilà. Et donc la prise de décision, elle est plutôt horizontale, mais après c'est vrai qu'il y a les 4 ou 5 personnes qui sont tout le temps là à tenir la revue, elles prennent des décisions ensemble, et après sur des itinérances, ce qu'on appelle itinérance, c'est le moment de l'enquête dans une ville. Et bien là, il y a les personnes qui ont rejoint l'équipe, en fait, qui participent à la prise de décision. Donc on débat beaucoup, on se prend beaucoup la tête sur plein de sujets, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus qui sorte. Donc on fait des très longues réunions.
Et sur l'écriture des articles, oui. Du coup, ça se passe comment ?
Et bien l'écriture, alors, dans l'idée, c'est d'enquêter collectivement, c'est-à-dire d'être
plein sur place à travailler un sujet ou plusieurs sujets. Après, en réalité, ça se passe souvent que en fait, on se met par petits groupes sur des sujets dans la ville dans laquelle on est, ou sur des gros dossiers. Et en fait, il y a pas mal d'articles ou d'enquêtes qui sont aussi faites individuellement. En fait, c'est souvent à deux, maximum à trois. Et sur l'écriture, pareil, quoi. Il y a des choses vraiment individuelles. Et il y a des choses écrites à deux ou trois. Après, on a un processus assez collectif de relecture assez poussé, où il y a pas mal de personnes qui participent aux relectures. Il y a plusieurs niveaux de relecture, quoi. Mais c'est vrai que... Enfin, au final, là, si on regarde le dernier numéro, la plupart des articles, ils sont quand même écrits par une personne, en général.
Et ils sont signés, d'ailleurs, vos articles.
Ouais. Au début de la revue, ils n'étaient pas du tout signés, les premières années. Et du coup, je sais pas si... Moi, j'y étais pas. Donc, je sais pas s'ils étaient écrits à plusieurs mains ou pas. Mais voilà, ça fluctue. Maintenant, ils sont signés.
Et du coup, donc, chaque année, vous changez d'endroit. Comment vous décidez de où vous allez et puis de la thématique que vous abordez? Comment ça se passe, cette décision-là?
Ça se passe assez simplement. Donc, quand on a fini un numéro et qu'on est en train de le faire tourner, et qu'on a fait, on fait des réunions, quoi, et chacun, chacune propose des idées, des envies. Enfin, ça se fait vraiment assez hyper. T'as dit quoi?
Des réunions qui durent 3 jours.
Oui, c'est ça. Les réunions sont très longues. Et donc, on peut s'enflammer sur une ville, une destination, un sujet, et être à fond, et en fait 2 mois après dans une autre réunion tout va être bouleversé. Donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas une règle absolue, quoi. C'est vraiment un peu selon les envies qui sortent, quoi, de chacun et chacune.
Peut-être tu peux redire les derniers numéros, où ils étaient, pour que auditrices arrivent à se représenter un peu.
Celui de l'année dernière, c'était à Toulouse. Le thème principal, c'était la ville technopole, les robots, tout ça, enfin la folie des nouvelles technologies et des entrepôts logistiques, enfin tout ça, l'économie virtuelle, entre guillemets virtuelle. Et aussi, il y avait un gros dossier sur la réappropriation des territoires et des luttes, enfin voilà, des luttes de territoire autour de Toulouse. L'année d'avant, on était, j'ai trop de mémoire, on était à Vénissieux. Ouais.
En banlieue lyonnaise.
En banlieue lyonnaise, et on avait travaillé sur les questions des luttes des descendants de l'immigration, sur les 30 ans de la marche de l'égalité contre le racisme, sur les crimes policiers, sur l'islamophobie, sur la vallée de la chimie, voilà. Et l'année d'avant, on était en Grèce, à Thessalonique, où on avait bossé sur la crise de la dette et sur toutes les alternatives locales qui étaient mises en place par les gens, à la fois... la médecine autogérée, les centres sociaux, les actions contre le parti néo-nazi, etc. Donc c'était assez chouette en initiative aussi. Voilà, et puis il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu Nantes sur le capitalisme écologiste et sur la ZAD. Il y a eu plein d'autres
destinations. De rêve.
Et c'est un guide touristique, en fait.
C'est ça, un peu particulier, mais... Et cette année, vous avez décidé d'enquêter à Marseille, donc avec l'angle d'attaque, les questions liées au genre, au féminisme, aux femmes, quoi, dans cette ville. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce thème, pourquoi cette ville et pourquoi ce thème dans cette ville?
Alors, pourquoi ce thème? En fait, ça faisait un moment que... En tout cas, il y avait quelques personnes qui avaient envie de faire un numéro féministe, quoi, parce qu'elles participaient à des luttes féministes, ou voilà, et que Z, à la base, n'avait pas la réputation d'être la revue qui allait faire un numéro sur les luttes des femmes. Et donc, on a vraiment très envie de faire ça. Sachant que c'est le 10e numéro et qu'on n'était pas sûr de continuer, on s'était dit, c'est pas possible que ça s'arrête sans qu'il y ait un numéro sur ces questions. Par rapport au choix de la ville, c'est parti d'un truc très matériel et pragmatique. C'est-à-dire que, moi par exemple, j'habite à Marseille et je pouvais pas bouger très loin de chez moi. Et en même temps, je portais quand même pas mal de trucs sur le féminisme. Et il y avait d'autres personnes qui étaient pas très loin de Marseille, en fait, et pour qui c'était beaucoup plus simple. Ou d'autres copines de Marseille féministes qui avaient très envie de participer. Donc en fait, si on faisait pas un truc dans le coin, ça voulait dire qu'on allait pas réussir à faire ce numéro. Enfin bon, bref, c'était un peu... c'est vraiment partie de questions hyper matérielles, en fait. Et après, on s'est posé la question, en fait, est-ce que c'était la bonne ville pour faire ce numéro-là ou pas? Parce que sur les luttes féministes, on avait aussi d'autres villes en tête où il y avait plein de choses qui se passaient. Et en fait, en y réfléchissant, on a trouvé que c'était une super idée. Parce qu'il y avait pas mal de choses déjà qui s'étaient passées sur place qui nous donnaient envie d'aller voir. Il y avait, il y avait eu deux marches de nuit l'année d'avant. Donc deux marches de nuit non mixtes qui avaient été organisées à Marseille en 2015. Il y avait un planning familial qui est assez actif. Et en plus, il y a pas mal de débats entre anciennes salariées et nouvelles salariées sur... questionner des choses voilà, sur la transidentité, sur l'islamophobie, sur plein de choses. Donc c'était un lieu intéressant à aller voir. Il y a aussi une association d'autodéfense féministe sur place, une maison de naissance pas très loin. Enfin, il y avait pas mal de choses qui nous donnaient envie. Le mouvement de grève des femmes de chambre, voilà. Donc on se disait que finalement, on avait pas mal de contacts aussi. On s'est dit que finalement c'était une bonne idée de faire ça à Marseille. Et aussi parce qu'on trouvait que c'était une bonne ville pour aborder la question du mépris contre les femmes. En fait, les femmes des classes populaires, les femmes musulmanes, les femmes étrangères, en fait, c'est. Enfin, Marseille, c'est la figure de la cagole, c'est la figure de la ville populaire qui est méprisée tout le temps. Et donc on trouvait aussi, même sur des questions voilà, intersectionnelles, comme on dit, de croisement de domination, c'était une ville intéressante. Il y avait plein de luttes locales intéressantes à aller voir.
Et du coup, tu peux décrire concrètement comment vous avez travaillé? Est-ce que c'est par petits bouts? Il y avait vraiment une entrée que vous avez favorisée en premier? Ou chaque binôme ou chaque personne, elle avait un peu sa thématique préférée sur laquelle elle voulait enquêter plus particulièrement? Est-ce qu'il y a une méthode, quoi, tu vois?
Ouais, comment dire? Ben souvent à la base, et là ça a été le cas, on a des idées, on a plein d'idées, et au final, en rencontrant des personnes sur place, en parlant un peu avec les personnes impliquées sur place, y a plein d'autres choses qui sortent. Par exemple, là y a pas mal de choses sur les femmes militantes dans les quartiers populaires, et c'était pas les premiers contacts qu'on avait, quoi. Nos premiers contacts, c'était plutôt les camarades féministes, etc. Et donc... vite fait, on s'est rendu compte que, enfin voilà, il fallait aller dans certaines directions aussi, pas juste rester dans notre entourage. Au départ, je sais pas vraiment s'il y avait des gens qui avaient une idée précise de ce qu'ils allaient faire. Il y avait plein d'envies, c'était plus aussi essayer de voir petit à petit. En fait, on discute, on voit si en fait ça colle ou pas, mais on essayait quand même de partir des envies. Enfin, en tout cas, la plupart du temps. Et après, essayer de mettre tout ça ensemble, de voir les questionnements ensemble et tout.
Et justement, le fait que vous soyez... Donc vous êtes un groupe mixte, quoi.
Ouais.
Et du coup, le fait de fonctionner en collectif mixte et donc était vraiment sur ces questions-là liées au féminisme, au genre, à la place des femmes là, dans la vie ou dans les luttes, est-ce que ça détermine des choix que vous avez faits? Ou aussi, est-ce que ça détermine, enfin tu pourras répondre dans un deuxième temps, mais la manière dont vous présentez votre vue, maintenant qu'elle est sortie, qu'est-ce que ça fait en fait, le fait d'être en mixité dans votre groupe par rapport à vraiment ce numéro particulier sur le féminisme et le genre?
Parce que ça a fait un truc assez spécial aussi, c'est que quand on a un peu annoncé le thème... Finalement, il n'y a pas de gars cis, pas de gars du tout, quoi, qui sont proposés. Enfin, il y en a un, mais il a vite pas trouvé sa place. On va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas de gars qui sont proposés pour rejoindre l'équipe. Alors, par contre, il y avait déjà un rédacteur dans l'équipe qui lui est resté, bien sûr. Et on a le graphiste, mais le graphiste ne participe pas tant au contenu, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars de l'équipe, il s'est moins mis sur les enquêtes de terrain, en fait. Il s'est un peu mis en retrait sur ce numéro-là, sans que ce soit demandé, en fait. Je pense que c'est venu de lui et que... Enfin, voilà, il a bien sûr fait plein de choses sur les relectures, un énorme boulot et tout. Mais c'est vrai que sur les enquêtes et sur les articles, c'est essentiellement... des meufs qui ont rejoint l'équipe, enfin qui ont écrit, et il y a eu plein de meufs en fait qui ont rejoint l'équipe. Donc ça a fait que par rapport aux années précédentes, finalement, les réunions, elles étaient, on était proches de la non-mixité, mais on n'était pas en non-mixité. Bah, ça a été des questions qui ont été soulevées par certaines personnes féministes sur place qui nous ont dit bah, « Moi, je veux bien venir, mais je préférais que ce soit en non-mixité. » Voilà, c'est qu'au final, le gars de l'équipe, il s'est pas trop mis en avant, en fait, sur le, sur les questionnements et sur, sur les enquêtes, vraiment, quoi. Il s'est mis en retrait là-dessus.
Et toi, tu penses que ça a pu jouer, par exemple, dans la confiance, enfin, je pense à certains articles, je sais pas, justement, bon, on en parlera tout à l'heure, mais toi, t'es allé interviewer des meufs bien militantes dans un quartier populaire de Marseille, ou d'autres enquêtes de terrain, je sais pas, il y avait des trucs sur les crèches, il y a plein de choses quoi, que vous avez fait. Tu penses que s'il y avait eu justement un mec ou plusieurs mecs qui s'étaient plus mis en avant, ça aurait fait quelque chose de différent ou pas forcément?
Oui, je pense. Ouais, ouais. Et puis il y a des articles qui n'auraient pas pu être faits, en fait, tout simplement. Celui-là, peut-être. Après, il y a toute une partie sur le corps, en fait, et celui-là, par exemple... sur le rapport au corps, la gynécologie et tout ça, je pense qu'il n'aurait pas pu être fait par un mec. Moi, personnellement, enfin, me demander à moi, je suis plus. Enfin, je suis assez convaincue par la non-mixité, donc je vais te répondre dans ce sens-là. Après, je ne sais pas si tout le monde dirait la même chose dans l'équipe. Mais je pense que ça. Enfin, ça crée une base de confiance et aussi le fait de. De rencontrer les personnes par d'autres personnes, créer une base de confiance. Pas juste des parfaites inconnues qui débarquent, là pour le coup en mode très journaliste, quoi, qui vont débarquer une fois et te demander de raconter plein de trucs. Enfin, je pense que la confiance, elle se joue aussi sur d'autres choses, pas que là-dessus.
Mais c'est intéressant aussi, moi je posais cette question parce que je trouve dans la posture, par exemple, journalistique, t'as pas forcément ces questionnements, en tout cas peut-être qu'elle y est, mais je le connais pas ce questionnement chez les journalistes, de se dire, bah, quelqu'un, il va pas me parler de la même manière selon ce que je représente à ses yeux. Ah, ce que tu dis sur la confiance, bah, ça paraît logique, en fait, que t'es sur des questions soit de l'intime, soit même vraiment de lutte de femmes et tout ça, que des femmes, elles aient plus envie de s'adresser à des femmes, ça paraît logique, je trouve. Sans rentrer dans le débat après, non, mixité, mais... Mais du coup, Deder, vous pouvez vous adapter dans votre manière d'intervenir aussi au sujet que vous traitez, c'est quand même intéressant, quoi.
Ouais, ouais.
Et du coup, toi, à titre perso, parce qu'en plus, tu habites à Marseille, donc le fait d'enquêter dans la ville où tu habites, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, une découverte ou quelque chose qui t'a particulièrement étonné quand tu as fait ce boulot d'enquête, ou choqué, ou qu'est-ce que tu retiens, quoi, vraiment, de cette enquête? Beaucoup de choses, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais. Moi, ça fait pas très très longtemps que je vis à Marseille. Ça fait 3 ans, maximum. Des découvertes, j'en ai faites. Par exemple, je suis allée... Enfin, c'est une très grande ville, en fait, et où il y a assez peu de transports en commun. Enfin, c'est assez mal développé, en fait. Et moi, je suis allée dans des quartiers où j'étais jamais allée. J'ai rencontré, des personnes que j'aurais peut-être pas rencontrées aussi vite. Que si je m'étais pas dit allez, faut faire un truc là-dessus, ou faut qu'on aille là et là. Donc là-dessus, j'ai plus navigué dans la ville que je l'avais fait auparavant, quoi. Donc ça, c'était bien, et j'ai pu sentir aussi des choses de. Bah, c'est une ville où il y a beaucoup de ségrégation territoriale, enfin, il y a beaucoup d'isolement, en fait. Les transports, ils sont vraiment faits que pour le centre-ville ou les quartiers chics. Donc là, de sentir aussi le territoire, ça, c'était hyper intéressant. Et moi, ça m'a donné la pêche, parce que j'ai rencontré plein de personnes qui se bougent, plein de femmes, en fait, qui ouvrent bien leur gueule et qui ont plein de choses à dire, qui lâchent pas l'affaire. Et je trouve que, par les temps qui courent, c'est chouette, en fait, de faire ces rencontres-là. Voilà, je sais pas, s'il y a un truc qui me vient, je te dirai, mais je sais plus.
Et de toute façon, on va faire une courte pause musicale. Et après, on reviendra justement sur un article en particulier que toi, tu as rédigé. Justement sur la cité Bassens, dans les quartiers nord de Marseille, c'est ça?
Ouais.
Alors, on écoute un groupe qui s'appelle La Chasse, qu'a présenté Élise en introduction. Et le titre, c'est « Ordre à mon chien ».
Thank you.
On est toujours sur Radio Canu, le 102.2, Lilith, Martine et les autres. Et du coup, on est toujours avec Mathilde de la revue Z. Et maintenant, on aimerait un peu faire un zoom sur un article que tu as écrit, donc qui parle de la cité Bassens, dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette cité, comment on y va, à quoi ça ressemble, où elle est située dans la ville?
Donc, c'est une cité de transit qui est toujours une cité de transit.
Ça veut dire quoi, une cité de transit, en fait?
C'est, en fait, dans les années 70, l'État, il a construit des cités de transit pour reloger les personnes qui étaient dans des bidonvilles. Et avant de les mettre en HLM, parce qu'en fait, il y avait ce critère qu'il fallait que les gens, donc c'était la plupart des Arabes ou des Gitans, etc., des immigrés, fallait qu'ils montrent qu'ils avaient des valeurs morales et d'intégration pour pouvoir habiter en HLM, en fait. Parce qu'avant, ils habitaient en bidonville. Et donc, la cité de transit, c'était l'étape transitoire avant le HLM. Okay. Et c'était pas fait pour durer. Sauf qu'il y a plein de cités de transit qui ont duré très longtemps. Et la cité Bassens, elle est toujours sur ce statut-là.
Ok. Et du coup, c'est comment?
Alors, en fait, elle est située dans le 15e arrondissement. Donc, c'est ce qu'on appelle les quartiers nord à Marseille. C'est une petite cité, pas beaucoup d'étages, très vétuste. Et en fait, elle est complètement enclavée. Enfin, moi, je trouvais que c'était assez impressionnant. J'avais rarement vu ça. C'est-à-dire que elle est enclavée entre une autoroute, une départementale, une ligne de chemin de fer. Et elle est même divisée en deux, en fait, par un espèce de tunnel très glauque qui passe sous l'autoroute, quoi. Et en plus de ça, elle est au milieu, en fait, d'une énorme zone franche où il y a 850 entreprises. Donc, faut s'imaginer, c'est des énormes entrepôts ou des locaux administratifs d'entreprises, en fait, qui viennent là, dans des zones comme ça parce qu'en fait, elles ont des avantages fiscaux pour s'installer là-bas parce que c'est assez isolé, donc elles ont des avantages. Et en fait, en contrepartie, elles sont censées embaucher des gens du coin. Sauf qu'en fait, par exemple, là, à Bassens, les entreprises locales, elles n'embauchent pas les gens. Elles préfèrent payer les pénalités, en fait. Donc, à Bassens, c'est quand même 40% de chômage. Et il n'y a personne qui a embauché sur la zone franche urbaine. Juste à côté, il y a une énorme usine Haribo. Et pareil, il y a genre deux personnes embauchées quoi, sur 750 personnes.
Et par exemple, si tu es au Vieux-Port, donc un peu le centre-ville de Marseille, tu mets combien de temps à arriver jusqu'à là-bas en transport en commun?
Tu mets du temps. Faut que tu ailles au bout d'une ligne de métro. Et après que tu prennes un bus, je pense que tu mets une heure. Un truc comme ça. Trois quarts d'heure. Et pourtant, c'est pas ce qu'il y a de plus loin, mais c'est assez mal desservi. Et c'est aussi très enclavé parce que c'est... par exemple, l'école primaire, il faut traverser la voie ferrée pour y aller. Alors maintenant, il y a un pont au-dessus, mais dans les années 70-80, il y a eu 13 enfants qui ont été tués par des trains parce qu'il n'y avait pas de mur. Donc en fait, ils jouaient sur les voies ferrées, ils coupaient par les voies ferrées pour aller à l'école. Ils ont fait quand même une lutte de 13 ans pour avoir un mur. Entre la cité qui est vraiment, alors maintenant elle est vraiment, le mur est vraiment, les immeubles sont à 5 mètres de la voie ferrée, enfin il y a un mur entre les deux, mais donc voilà, ça a quand même pris 13 morts et une dizaine d'années de lutte. Il n'y a pas d'institution, enfin à part il y a un énorme commissariat qui est le Gros Commissariat Nord qui surplombe la cité. Voilà, donc lui il est vraiment juste au-dessus, donc ils mettent 2 minutes pour arriver dès qu'ils ont envie de faire une descente. Mais sinon, il y a un micmac administratif qui fait qu'elle dépend de la mairie du 15e, mais pour la politique de la ville, elle dépend du 13-14. Et elle est située vraiment à côté de la mairie du 14e arrondissement. Bref, donc en fait, les gens, ils mettent une heure en bus, avec plusieurs bus, pour aller faire des démarches au Pôle emploi, à la mission locale, à la mairie à laquelle ils sont reliés, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment complètement relégués dans cette zone. Enfin, ça donne vraiment cette impression quand on y va, quoi. Du truc isolé, assez petit, au milieu d'une énorme zone franche.
Voilà. Les Minguettes à côté, c'est... c'est
là. Non, mais ça n'a rien à voir avec les Minguettes.
c'est trop la classe.
Et du coup, il y a une grosse histoire de lutte quand même dans cette...
cité. Bah, en fait, donc elle a été construite dans les années, je dirais, 60. Ouais, le début des années 60. C'était pour reloger... il y avait plein de familles gitanes et arabes qui vivaient dans un bidonville à côté. Et donc, ils ont été relogés sur Bassins. Et Bassins, c'était une usine de mazout, de stockage de mazout. Et en fait, ils ont juste enterré le mazout. Ils n'ont pas dépollué. Ils ont laissé toute la ferraille de l'entrepôt et ils ont construit la cité dessus. Donc là, une des femmes que j'ai rencontrées pour l'interview, donc qui a grandi là-bas, elle disait, nous, on jouait dans la terre noire au milieu de la ferraille. Donc c'était, elle est connue pour sa terre noire, en fait, et rouge aussi, parce qu'il y avait d'autres matériaux, je ne sais plus lesquels. Et en fait, dans les années 70-80, comme c'était des anciens, des bidonvilles, et que c'était une cité de transit toute pourrie, en fait, les gens, ils ont commencé à faire des grèves de loyers qui ont duré énormément de temps. D'abord individuellement, et puis après collectivement, avec aussi des groupes de soutien locaux, des assos. C'est aussi des personnes qui sont impliquées dans la marche de l'égalité contre le racisme. En fait, la marche, elle est partie de là-bas, de Marseille, et notamment de Bassins. Voilà, donc il y avait pas mal de militants qui étaient des gens qui vivaient là-bas, qui participaient aussi, c'était l'époque des radios libres, des journaux un peu autonomes et tout ça. Donc il y a eu tout un foisonnement. Et en fait, c'est ce qui donne aussi... la force des femmes que j'ai rencontrées qui luttent localement, en fait, c'est des filles. Enfin, en tout cas, il y en a une, la Sherazade Ben Messaoud. C'est une fille d'un militant historique de la cité. Donc, c'est que des familles, en fait, c'est des histoires familiales aussi assez fortes. Voilà.
Et toi, du coup, tu as rencontré trois personnes là-bas, hein, c'est ça ton article
Deux personnes sur
celle-là. Ouais. Et tu les as rencontrées comment? Comment tu as eu leur contact et,
Et bien, c'était par une copine, justement, du gang des gazières, qui avait rencontré les deux, en fait, Sherazade Ben Messaoud et Amina Abba Aziz. Je sais plus comment elles s'étaient rencontrées, parce qu'en fait, elles font des fêtes de quartier parfois. Et donc, il y avait des gens un peu du centre-ville militant qui étaient allés à ces fêtes-là. Je pense que c'est comme ça qu'elles l'avaient rencontrée. Et aussi, en fait, elles sont vraiment en train de mener une lutte contre le préfet à l'égalité des chances et contre l'agence de cohésion sociale pour l'égalité des chances. Et donc, en fait, on avait décidé de faire une émission de radio sur Radio Galère avec elles pour parler un peu de ce combat. C'était pile au moment où, en fait, elles sortaient leur pétition, etc., etc. Et donc, on a commencé par faire une émission de radio. Et à partir de là, en fait, un entretien. Enfin bref, j'y suis allée plusieurs fois. Et voilà.
Et t'as bien accroché.
Ouais.
Et du coup, tu peux nous dire un peu, elles, sur quoi elles luttent? C'est quoi vraiment leurs combats principaux? Puisqu'elles représentent aussi dans cette cité, quoi. J'ai l'impression qu'elles ont un rôle important, quand même.
Ouais, un rôle super important. En fait, elles ont créé il y a, je sais plus quand, il y a une dizaine d'années, je dirais. Attends. Une association qui s'appelle MAD, ça veut dire Marseille en Action pour le Développement et l'Échange, enfin bref. Et elles ont créé cette association, celle qui l'a créée en partie, donc c'est Sherazade Ben Messaoud qui a grandi à Bassins et qui était partie de la cité comme la plupart des jeunes, à l'époque jeunes, qui ont eu des diplômes ou qui ont eu des travails, en fait ils sont barrés de la cité. Et elle, ça l'a désolée, en fait, de voir vraiment l'état de délabrement et qu'il n'y avait rien, parce que c'est vraiment un endroit où il n'y a pas, il n'y a pas de centre social, il n'y a pas d'éducateur de rue, il y a très peu de personnes qui viennent là-bas, en fait, c'est complètement désert. Et donc, vu toutes les luttes qu'elle avait connues dans son enfance, en fait, elle voulait pas que ça se termine comme ça. Et donc, avec des copines, elles ont créé l'association, quoi. Donc, créé dans l'appartement, enfin, dans la cuisine de l'appart où elles ont grandi. Et elles pensaient pas rester très longtemps, enfin juste 2-3 ans, et en fait ça fait 10 ans qu'elles sont sur place. Et elles font un peu tout. Enfin, c'est assez impressionnant quand on se balade dans le quartier avec elles, les gens les arrêtent tout le temps pour leur demander où ça en est le dossier Pôle emploi, la CAF, les galères avec l'huissier, les histoires de papier. Parce qu'elles font permanence donc, sur toutes les démarches administratives. Elles font de l'alphabétisation, des cours de français et tout ça. Là, elles sont en train de monter une auto-école autogérée, donc gratuite. Qu'elles ont trouvé une nana qui est monitrice d'auto-école. Et elles essayent d'avoir une voiture et tout ça. Donc elles font des cours de code vulgarisés, en fait, pour les gens qui ne savent pas lire ou écrire ou les gens qui parlent mal le français. Donc elles font ça. Et elles ont un mini local, quoi. Ça fait 10 mètres carrés et il y a toujours plein de gens qui passent. Elles font quoi d'autre? Du soutien scolaire. Puis elles règlent aussi les problèmes, les embrouilles sur place, en fait. Il y a un côté un peu. Enfin voilà, discussion dehors sur le terrain entre tout le monde. Donc voilà. Ouais, il y a un truc un peu frappant, c'est que par exemple, ce qu'elle me disait, c'est qu'à 90% des gens de la cité, en fait, ils utilisent l'adresse mail de l'asso pour leurs démarches administratives, Pôle emploi, CAF, machin. Donc en fait, c'est elles qui reçoivent les mails de dossiers de tous ces gens qui n'ont pas l'internet chez eux et qui n'utilisent pas forcément. Enfin, ce qu'elle disait, que ça a été très dur, en fait, la dématérialisation des démarches administratives, les fermetures des CAF. Il y a plein de gens qui ont été menacés d'expulsion et tout. Et donc voilà, c'est assez intéressant. En fait, elles gèrent un milliard de trucs tout le temps.
Et elles sont combien, en fait,
Elles sont... Je dirais qu'elles sont 3 ou 4.
Ah ouais.
Il y en a une qui fait pas mal l'alphabétisation.
Elle dorme pas beaucoup, en fait.
Non, mais Sherazade, là, c'est une folle, quoi. Elle est à fond la caisse tout le temps. Elle me dit, moi, j'ai des problèmes cardiaques tellement je suis speed. Et ouais. C'est vrai, quoi. Elle répond au téléphone en plein milieu de la nuit. Ouais. Donc, mais elles ont toujours la patate, quoi.
Et du coup, par rapport à la politique de la ville, enfin, il y a plein de choses qui sont écrites dans leurs témoignages, quoi, ce qu'elles racontent de comment on leur met aussi des bâtons dans les roues dans les actions qu'elles font. Parce que bon, tout ce que tu as cité qu'elles font, je veux dire, il y a plein de quartiers où on autorise les gens à faire du soutien scolaire, de l'alphabétisation et tout ça.
Enfin, même on les paye pour ça.
Voilà. Bah en fait, c'est... Là, c'était ça qui était assez frappant aussi, c'est le décalage entre tout ce qu'elles font. Et en fait, le fait qu'elles reçoivent très peu de fonds en fait, de la politique de la ville, alors que c'est des quartiers étiquetés politique de la ville où il y a plein d'argent qui est censé aller aux assos locales ou aux assos qui interviennent sur le terrain. Et donc, en fait, tu as des associations de gens du centre-ville qui font la médiation culturelle qui sont payés pour intervenir sur l'arrondissement, donc énorme, mais qui ne viennent pas du tout à Bassins. Et elle, en fait, en permanence, ça fait 20 ans, tu vois, qu'elles connaissent le quartier, on leur dit, vous n'êtes pas compétentes, elles font des projets de 40 pages, on leur dit, non, mais vous n'êtes pas compétentes, etc., etc. Il y en a une, elle a sa licence de psychologie, on lui dit, t'as pas le droit de faire du soutien scolaire parce que t'es pas compétente. Pareil, il y en a une qui a travaillé à Pôle emploi, on lui dit, bah non, le point animation d'emploi, on va pas le financer parce que vous avez pas des personnes diplômées pour, etc. Alors donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Et en fait, donc elle raconte plein d'exemples, etc. Et elle, leur conclusion, c'est vraiment genre, bah en fait, nous, on est des femmes arabes, filles de personnes de bidonville qui ont immigré. En plus, pour certaines d'entre elles, elles portent le foulard. On est vraiment, en fait, ils nous prennent pour des débiles. Mmh. En permanence, en réunion, c'est toujours, c'est des techniciens en fait, des services. Ils nous prennent un peu pour des débiles. Alors, il y a une femme de la politique de la ville qui est à fond derrière elle et qui était hyper contente aussi qu'il y ait une émission de radio, des choses qui se passent parce que elle a été placardisée en fait dans la politique de la ville.
Ouais. Parce qu'elle soutient ces initiatives-là.
Quoi. Ouais, parce qu'en fait, elle dit qu'il y a vraiment trop de mépris à l'égard de ce qu'elles font. Il y a que des blocages, en fait. Là, le détail est pas mal dans l'article. C'est assez complexe.
Ouais, quand tu penses que peut-être un millième de ce qu'elles font, des fois dans les villes, il faut 15 cadres qui rédigent un projet pour mettre en place ça. Si tu dis qu'à 3 ou 4, elles mènent tout ça de front, c'est bon.
Puis quand tu vois surtout, je vois un petit peu à Lyon, puis on avait vu au Minguette, c'est vrai qu'en fait, tous les trucs des politiques de la ville, il y a vraiment un glissement. Au début, ça a démarré, c'était vraiment pour les quartiers populaires, les banlieues, et les gens aussi qui ont... Enfin, parce qu'il y a des gens dans les années 80 qui se sont lancés, maintenant qui ont des postes, tout ça. Mais petit à petit, ça a glissé. Et maintenant, c'est des associations. Enfin, moi, par exemple, à Lyon, le CMTRA, donc le Centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes, ça a un peu rien à voir quand même avec le but premier des politiques de la ville. Et pourtant, ils ont des subventions politiques de la ville parce qu'ils vont faire un truc à la Duchère. Mais moi, je trouve que c'est vraiment décalé parce qu'en fait, c'est une association plutôt de centre-ville, plutôt avec des gens qui viennent pas du tout de ces quartiers. Et après, c'est dû aussi, eux, ils ont des baisses de subventions dans la culture. D'ailleurs, donc, en fait, c'est eux qui raflent, parce que aussi ils ont les réseaux, parce que c'est beaucoup, enfin faut pas se cacher, hein, c'est beaucoup des trucs qui marchent aussi par réseau. Et c'est un truc de dingue, parce que tu, en plus le pire c'est que les gens lambda, tu vois, il y a tant de milliards, de millions d'euros qui sont pour la politique de la ville. Alors tu te dis, ah bah oui, l'État aide vraiment les banlieues, c'est formidable. Et en fait, bah non, quoi. Enfin, c'est... Non, mais c'est trop un scandale, moi, je trouve, quand t'entends des trucs comme ça. Enfin, on y sait, mais c'est vrai que quand t'entends vraiment concrètement, putain, tu fais merde.
Bah, surtout qu'il y a plein d'histoires de banlieues différentes. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai lu ton article, j'étais quand même hyper choquée. Parce que t'imagines pas à ce point-là, en fait. Tu sais qu'il y a des banlieues où il y a plus de trucs, plus de sous qui sont mis justement pour le centre social, l'animation. De soir. Je sais pas, on connaît l'histoire de la Villeneuve à Grenoble, des quartiers comme ça. Et du coup, quand tu lis là, carrément, c'est non seulement t'as pas de sous, mais même... on t'empêche presque de faire ce que t'as à faire, quoi.
Ouais, puis elles se font vraiment mal parler dans les réunions où elles proposent leurs trucs. Elles disent, nous, on nous voit, on peut faire de la médiation ou du loisir, on peut faire du couscous animation enfant, parce qu'on est des femmes
des mamans,
maghrébines, qu'on a des gosses, hein, ou pas, quoi. Mais, et ouais, elles incitent vachement sur le truc de, en fait, faire un truc nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre quartier, en fait, ça, on nous laisse pas le faire. Ça fait chier, en fait. Ça, c'est le truc, ils ont pas envie qu'on passe dans un autre rôle, en fait. Si on reste les personnes vers qui les actions sont dirigées, ça va. Si on reste à notre place, en fait, ça va. Mais quand on essaie de passer de l'autre côté, ça va pas. Et elle a une phrase, Sherazade, elle dit, ça fait... elle dit quoi ? Ça fait 30 ans qu'on nous éduque, qu'on nous socialise, on nous occupe, mais on ne nous laisse pas être autonomes, en fait, dans nos luttes. Et, parce qu'on a une manière de faire, une manière de parler. Voilà. Et pourtant, par exemple, Amina, elle a vraiment fait des études de psycho, de médiation sociale, machin. Donc, en fait, elle parle vraiment avec le vocabulaire de la politique de la ville. Donc, elle dit, on utilise complètement le vocable, on se fond dans le truc, et quand même, ça ne marche pas au niveau des financements, quoi.
Faut qu'elle se fasse une fausse asso domiciliée à la Friche Belle de Mai.
Ouais, c'est ça.
Qu'elle se fasse prêter les noms.
Mais elles ont eu un projet avec des gens de la Belle de Mai et tout.
Ouais. Et quand même.
Mais bon, voilà, elles disent faut changer de nom, faut changer de tête.
C'est grave. C'est grave. Hein.
Mais en tout cas, elle lâche pas l'affaire, quoi. Et franchement, ça, c'est assez chouette aussi, le côté. Tant pis, on fera ça, on est autonome. Et aussi, ce qu'elle raconte, ce que j'ai pas trop dans l'article, mais elles se sont pas du tout mises en politique. Aussi, il y a des trucs comme ça, comme on a vu partout, en fait, mais à Marseille, c'est pareil. De personnes d'assaut local qui se font un peu récupérer par des partis pour des élections, mais qui, en fait, après, c'est l'arabe de service et la femme arabe de service. Et en fait, après, il y en a plein qui ont eu ce parcours-là, qui se barrent des partis assez vite. Et elles ont ce truc aussi hyper, genre, nous, on va pas se mouiller avec la politique ou machin, ou les grandes institutions, on s'en fout. Donc, c'était aussi assez intéressant pour ça.
Leur regard,
ouais.
Et en tout cas, c'est vrai que l'article, il met bien, bien la patate. Et il y en a d'autres qui mettent la patate.
Et c'est le gang des gazières, puisque sans transition, on vous passe l'extrait de l'émission de Radio Marseillaise qui passe sur Radio Galère, le gang des gazières.
De 20h à 22h.
Et c'est sur la galère.
88 quoi ?
.4.
On peut entendre des paroles,
des infos,
des lectures,
des interviews,
des coups de gueule,
des chants,
des sujets pas toujours funny,
des recettes,
des luttes,
des blagues,
du boucan.
On commence. Un peu de sérieux, il ne reste plus que ça à faire.
Ici, en vrac, mais pas en libre service.
Des tchatcheuses,
des écouteuses,
des meufs au micro,
des apprenties arrogantes
et des marseillaises pas arrangeantes.
Des trans dans le transistor, des méditerranéennes, des femmes diffusées sur la FM, des féministes, des semi-activistes.
Des noirs, des banlieusardes, des gouines sur galère.
Sûrs de nous ou en cheminement, ça dépend.
En coulisses,
on se revendique, animatrice du studio au plateau, technicienne mangeuse de micro.
Ça va vous faire gauler.
Jouer, parler,
chanter,
jaser.
Tous les premiers mercredis du mois, de 20h à 22h.
On mixe
passe les cow-boys.
Mais c'est pas une émission culinaire.
Et c'est sur Radio Galère.
Voilà. Voilà, donc juste la petite ambiance. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous vous êtes mise en grève ? Quelles étaient vos revendications ?
Oui, pour les grèves, oui. Il y avait beaucoup de soucis aussi. Il y avait des choses que le patron nous a dit qu'il va régler, ils n'ont pas réglé. Par contre, à propos des heures supplémentaires, il va dans les pontoses, mais il ne paye pas. Dans le pays, il ne paye pas. Il y avait aussi des augmentations, parce que nous, on avait une femme de chambre qui, lui, elle gagne plus que nous. On a demandé au patron pourquoi elle a un contrat plus haut que nous. Il nous a rien répondu. Après, il y avait notre juridique du syndicat. Il a envoyé un courrier comme quoi, qui est en femme de chambre, qu'il gagne plus que les autres. Lui, il n'a pas répondu. Donc, nous, on s'organise, on a demandé le même chose parce qu'on est tous des femmes de chambre. C'est là qu'il a refusé. Et nous, on était d'accord avec tous les femmes de chambre, on était d'accord. Donc, on a fait la grève.
Toutes les femmes de chambre, c'est assez incroyable. Quoi.
Ah oui, les filles qui n'étaient même pas syndiquées, ils sont venues avec nous et ils ont dit, donc c'est pas possible parce que le patron, il a dit s'il va augmenter, il va augmenter. Les filles qui sont syndiquées, les autres non. Donc nous, on a organisé, on a demandé depuis le mois de septembre que nous, il ne nous a pas payé parce que nous, normalement, on doit passer à 0,8. Il paye cette fille 10,8 et nous non. Donc on a organisé, on a fait la grève.
En fait, le problème avec cette fille-là qui était augmentée, c'est qu'avant, il y avait une chef de site qui a été dégagée depuis, mais qui était assez méchante, le mot est faible. Et en fait, elle avait un peu ses chouchous, et donc elle avait augmenté deux ou trois personnes. Il y en a deux autres qui sont parties. Mais bon, il restait encore sur l'hôtel cette personne, cette femme de chambre, qui avait du coup un contrat, enfin une qualification bien plus haute, bien plus élevée que les autres. Et donc, quand la chef de site a été dégagée, il a fallu un peu de temps, puis cette femme de chambre a fini par nous rejoindre et là on s'est rendu compte qu'il y avait deux qualifications différentes et quand on a demandé l'augmentation, enfin que tout le monde soit payé pareil, à la même qualification, c'est-à-dire à QS2, là c'est vrai qu'on n'a pas eu de réponse avant la grève. C'est la seule chose qui a commencé à faire bouger les choses.
Il y avait l'annualisation aussi.
Oui, 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 il y avait l'annualisation chaque mois. Et nous, on a demandé pourquoi il y a des annualisations. Ils ont dit, oui, c'est comme ça. Même l'inspectrice, il a dit, c'est comme ça parce que il y a des mois que vous travaillez moins, il y a des mois que vous travaillez plus. Et nous, on a dit, pourquoi ça change? Nous, on veut celle qu'on a travaillé, le pays, celle qu'on a travaillé. On ne veut pas que vous fassiez d'annualisation. Donc, ils continuent à faire et nous, on a organisé, on a fait la grève. Donc, c'est jusqu'à la grève que ça va arranger.
Du coup, si elle nous demandait si on veut pour elle nous prêter le sou, moi, je le répondis, je le dis que je ne veux pas le sou de personne, je veux que sous que je travaille, que je veux pas sous la personne. Elle me dit, ah, pourquoi Catherine? Je dis non, moi, je veux des heures que je travaille, je reçois les heures que je travaille pour faire mon cours et tout ça. Je ne pense pas pour les sous la personne. C'est ça. Maintenant, on est fait la grève. Je crois que maintenant, moi, nous tous, on est croit que tout est certain. Pour le moment, on est attendre. T'es jusqu'à la fin du mois, on regarde si le patron elle est sérieux. Oh, elle ne s'est pas sérieux. Comme avant, elle dit, vous faites tout, mais elle ne fait rien du tout. Mm-hmm.
Et oui, parce que ça, c'était l'accord de l'année dernière qui n'a pas été respecté.
Voilà. Oui.
Mais en fait, ce problème d'annualisation, il est sorti il n'y a même pas un mois, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de pointeuse. Du coup, elles dépassaient souvent leur contrat. Et comme il y avait avant, il n'y avait pas de pointeuse, après, il y a une pointeuse qui ne marchait pas. Mais bon, en gros, elles notaient leurs heures sur un bout de papier et on se rendait compte qu'il y avait des heures en plus. Et quand on écrivait au patron pour lui dire il y a un problème, il nous disait non, mais ces heures, elles ont été contrôlées par personne, c'est pas vérifié, tout ça. Bon, il y a eu une grève où elles ont réussi à faire régulariser ces heures-là. Il y a une nouvelle pointeuse qui a été mise en place. Et depuis octobre, on a vu qu'il y avait, sur les relevés de la pointeuse, des heures qui étaient...
incontestables.
Qui étaient incontestables et qui étaient toujours en plus. Et quand on lui a envoyé les fiches de paye et les relevés de la pointeuse en disant « Regardez, là, il y a des mois pour une, ça fait 15 heures quand même. Elle a un contrat de 108 heures et on voit sur la pointeuse, elle a fait 125. » Et là, il nous a répondu « Ah mais non, mais c'est parce que maintenant, c'est annualisé. » C'est-à-dire que comme l'hiver, elles font un peu moins de travail parce qu'effectivement, il y a moins d'occupation de l'hôtel. Mmh. Et au lieu de faire 108 heures, par exemple, elles vont faire, je sais pas, 105 ou 100. Et ben, il a commencé à nous dire, ben, les heures en plus de certains mois, elles vont compenser les heures en moins des autres mois. Sauf que ça, c'est possible que pour les temps partiels et que quand on l'a accepté. Et là, c'était ni l'un ni l'autre.
Mmh. Mais ça, c'est super. Enfin... Cet exemple de l'annualisation, moi, je le trouve super important parce que c'est un système qui se généralise dans tous les domaines et que probablement la loi travail va encore assouplir. Et c'est vraiment un moyen de faire sauter les 35 heures et de pour éviter de payer les gens 25% en plus. Mmh. Et c'est là où moi votre grève, je la trouve trop bien parce que elle a fait sauter un accord interne. Mmh. Parce que là, on voit bien depuis plein d'années que il y a un espèce de cadre général où on peut se dire « Oh, ça va, c'est pas pire », à part que dans chaque entreprise, plus encore pire chez les sous-traitants, et là, chez vous, c'était vraiment ce cas-là, parce que vous êtes salarié d'une boîte sous-traitante d'un grand hôtel 4 ou 5 étoiles, c'est combien d'étoiles ?
4.
Seulement 4 étoiles. Et que en fait il y a plein de gens qui pour qui en fait c'est complètement mort, les accords ils sont signés, etc. Et je trouve ça hyper important de rappeler que les accords ils durent pas pour toujours et qu'on peut les contester et que dans plein de cas aussi ils sont mal faits, ils sont illégaux. Enfin faut aller chercher ces informations là quoi. Ouais. Donc encore une fois bravo, c'est trop bien que vous ayez fait sauter ces trucs là parce que c'est en train de s'ancrer. Hyper fort dans la mentalité de plein de travailleuses et travailleurs, qu'on peut pas faire bouger ces lois internes ou ces grandes lois évidemment, mais vu que là toute entreprise va avoir son petit sa petite spécialité en matière de règles internes, etc. En fait faut se rappeler que ça se renégocie et puis ça se rebloque aussi.
Ouais. Mais ça montre aussi cette grève les difficultés de la loi El Khomri, c'est que maintenant si tout passe par accord d'entreprise, là on voit il y a eu 13 jours de grève. C'est pas facile, ça arrive pas partout. Là, faut dire, elles sont une sacrée équipe. Ça fait 2 ans déjà qu'elles sont en lutte. Avant, elles étaient 5, elles sont passées à 8 et là, elles étaient les 13. Et du coup, on imagine si maintenant tout doit être négocié avec l'employeur, ça va donner des situations invivables, quoi. Si on doit avoir des cas comme ça pour négocier la majoration des heures sup, ça risque d'être compliqué.
Bah, il va y avoir des grèves partout.
Ouais, espérons. Voilà. Ils ont du courage.
Ah oui.
Donc c'était un extrait du Gang des Gazières, l'émission de Marseille d'avril 2016. Et toi Mathilde, tu nous disais que la lutte continue.
Et oui, il y a eu pas mal d'autres grèves de femmes de chambre depuis avril dernier à Marseille. En fait, on peut parler un peu d'un mouvement social en cours à Marseille parce que tous les grands hôtels de luxe, petit à petit, en fait... sont touchés par ces grèves-là. Donc il y a eu les femmes, et c'est toutes les femmes de chambre en fait à chaque fois maintenant qui se mettent en grève. Rien qu'en septembre, il y a eu l'Intercontinental qui est un hôtel 5 étoiles, puis le Radisson Blue, je sais pas, c'est 4 étoiles, c'est des hôtels où la chambre elle coûte des milliers d'euros. Et donc en fait, ça fout un peu la pression sur les hôtels parce qu'ils peuvent pas non plus se permettre que les chambres soient pas nettoyées pendant plusieurs jours de suite. Et donc dans les dernières grèves, les deux grosses dernières, trois dernières, elles ont gagné en une semaine en fait sur toutes leurs revendications. Donc voilà, après avoir fait toute grève en même temps et des piquets à l'entrée de ces hôtels de luxe.
Et c'était sur un autre hôtel que celui qu'on a entendu ?
Ouais. En fait, depuis un an et demi, il y a un mouvement sur à peu près tous les hôtels de luxe, petit à petit, en fait, sont touchés. Et il y a eu aussi une grève sur l'appart-hôtel, donc ça, c'est moins de luxe. Mmh. Mais donc, où il y a eu les mêmes problématiques de sous-traitance et des femmes de chambre qui sont vraiment payées rien du tout à la tâche, qui sont super maltraitées. Donc ça prend l'ampleur et c'est chouette quoi.
Eh ben on leur souhaite bon courage en tout cas pour continuer la lutte. On va se quitter parce que c'est la fin de Lilith Martin et les autres. Merci beaucoup Mathilde d'être venue à
l'émission. Merci à vous.
Et on rappelle que demain la revue Z elle est présentée à Terre des Livres.
À Terre des Livres à 15h il me semble.
Voilà, Terre des Livres c'est la librairie qui est 86 rue de Marseille dans le 7e et donc vous pouvez venir à la présentation de Bonne Femme Mauvais Genre le numéro 10 de Z. On se quitte là et on va peut-être vous mettre une petite musique de fin. Donc c'est toujours de notre copine Flo et ça s'appelle Chromosome Y. Au revoir.
Au revoir. Salut, merci.
T'as un chromosome il est déficient. T'as du mal à comprendre, t'es un peu lent. T'es pas capable de faire deux choses en même temps. Les cheveux en quatre, c'est pas ta spécialité. Des fois c'est pour ça que je t'aime bien, des fois pour ça que je te hais.